Bienvenue dans cette émission. Clôture ce jeudi 24 mars de l'opération du dépôt des candidatures à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des 14 provinces concernées par ce scrutin prévu le 6 mai prochain. Ceci est contenu dans un communiqué rendu public mardi dernier par la CENI. Au sujet des préparatifs de cette élection, le Présidium de l'Union sacrée de la Nation a organisé des préliminaires avec les députés provinciaux concernés en séjour à Kinshasa. Des candidats qui ont été élus mardi dernier aux primaires par les députés membres de cette plateforme politique seront présentés comme tickets gagnants à cette élection. Cependant, ces choix sont loin de faire l'unanimité parmi les députés provinciaux de l'Union sacrée. Quelle analyse faire du processus de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des 14 provinces? C'est l'objet de l'émission de ce soir et nous recevons Maître Gilbert Katsingé. Il est expert en décentralisation. Bonsoir Maître Gilbert Katsingé.
Bonsoir à tous les auditeurs.
Professeur Alphonse Maindo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Bonsoir professeur Alphonse Maindo.
Bonsoir.
Et Jonas Tchombela, coordonnateur national de la nouvelle société civile du Congo. Bonsoir monsieur Jonas Tchombela.
Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Préparatifs des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces dirigées par les intérimaires, les présidiums de l'Union sacrée de la Nation a organisé des préliminaires avec les députés provinciaux concernés en séjour à Kinshasa. Des candidats qui ont été élus le mardi dernier aux primaires par les députés membres de cette plateforme politique seront présentés comme tickets gagnants à cette élection. Cependant, ce choix est loin de faire l'unanimité parmi les députés provinciaux de l'Union sacrée de la Nation. Michel Kifindangoy pour les détails.
Dans une déclaration à la presse, les députés de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, membres de l'Union sacrée, s'opposent au choix soutenu par l'UDPS, appuyé par les députés membres du FCCI. Ils plaident pour l'intervention du chef de l'État afin que leur choix de candidat au gouverneur soit préservé. Alexis Kayembe, vice-président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika.
Un membre du Présidium a soutenu une candidate dont la base électorale est constituée exclusivement des députés provinciaux du FCC. En conséquence, que les députés provinciaux de l'Union sacrée ne sont pas prêts à adhérer à la décision contraire au résultat des votes de consultation.
Pendant ces temps, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central rejette toute allégation faisant état de l'imposition par le présidium de l'Union sacrée de la candidature de Guy Bandou au poste de gouverneur. Jean-Claude Vouemba.
Je mets à défi qui que ce soit qui viendra me montrer qu'il y a eu corruption auprès des députés provinciaux, Jean-Claude Vouemba laisserait sa place. Le premier ticket qui est sorti des urnes, c'est le ticket du docteur Guy Bandou avec 26 voix.
Seules les élections prévues pour le 6 avril prochain pourront départager tous les candidats gouverneurs des 14 provinces concernées.
Merci à vous Michel Kifindangoy. Maître Gilbert Katsingé, expert en décentralisation, vous avez vu évoluer, n'est-ce pas, ces processus de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des 14 provinces prévus le 6 mai prochain. Que pensez-vous de ces processus, Maître Gilbert Katsingé?
Merci beaucoup. Permettez-moi de saluer encore une fois les auditeurs de la Radio Capi, ceux qui sont toujours fidèles à l'émission Dialogue entre Congolais. Je voudrais à ce stade déjà déplorer le fait que, en tant qu'expert de la décentralisation, je constate que nous allons remplacer 14 gouverneurs de province et donc en 3 ans, notre pays aura connu des chambardements au niveau des provinces, de 14 provinces, sans compter d'ailleurs les autres gouverneurs qui ont été remplacés auparavant. Et donc cela traduit en fait une sorte d'instabilité institutionnelle que nous avons connue sous le régime précédent et qui aujourd'hui a tendance à se transformer en une sorte de chaos. Parce que 14 gouverneurs de province sur 26 en l'espace de 3 ans, c'est trop. C'est la preuve qu'il y a un malaise sérieux au niveau des provinces et que ce malaise a une incidence terrible sur l'objectif même de ces élections, parce que Nous devons savoir que les élections ne sont pas une fin en soi. Les élections des gouverneurs de province doivent avoir pour résultat de placer à la tête de chaque province des cadres qui vont contribuer à l'amélioration des conditions sociales de la population selon la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, nous tendons en tout cas vers un chaos, parce que sur les 26 provinces, si déjà on peut en 3 ans remplacer 14, et même plus, parce qu'il y a d'autres qui ont été déjà remplacés, eh bien, nous ne savons pas si d'ici là, d'autres peut-être ne vont pas tomber. Et sur le plan des objectifs, nous ne pouvons pas atteindre les objectifs assignés à la décentralisation tels que voulus par le constituant et le législateur.
Maître Gilbert Kassinger, contrairement aux habitudes, cette fois-ci, on a procédé par l'organisation des primaires afin de présenter des tickets gagnants. Et c'est l'Union sacrée de la nation qui a procédé ainsi avec les députés provinciaux des provinces concernées qui sont en séjour ici à Kinshasa. Comment vous appréciez cette approche utilisée par l'Union sacrée de la nation?
Oui, si j'ai parlé de l'instabilité institutionnelle, c'était parce qu'en fait je voulais souligner le fait que les élections au niveau des provinces n'obéissent à aucune règle fixe. Donc aujourd'hui on peut organiser les préliminaires, mais ce sont des données qui peuvent changer à tout moment, de sorte que le candidat qui va gagner ne sera pas forcément celui qui aura été plébiscité ou désigné au niveau de cette procédure à laquelle on n'est pas habitué. On n'est pas habitué, n'est-ce pas, aux élections préliminaires dans notre pays, c'est une nouvelle pratique, mais qui risque de ne pas produire le résultat escompté, parce que nous savons que les données en matière d'élections sont tellement mobile, les données ne sont pas stables et que ne gagne les élections que celui qui aura bâti une bonne campagne, c'est-à-dire celui qui aura déployé suffisamment d'énergie en termes financiers et en termes de mobilisation, et que donc tout peut changer au moment du dépôt de bulletins dans les urnes le 6 mai 2023.
Et vous ne pensez pas qu'avec cette façon de faire, ce sont plutôt des personnes qui sont à Kinshasa, n'est-ce pas, qui vont choisir pour les députés provinciaux des candidats qui ne sont pas nécessairement ceux pour qui ils auraient dû voter si on les avait laissé la liberté de choisir?
Bon, il faut savoir que ces élections vont intervenir dans un contexte particulier où les députés provinciaux font face à plusieurs défis d'ordre social. Et beaucoup de députés, beaucoup d'assemblées provinciales ont déjà passé plusieurs mois, il y en a qui ont passé 9 à 10 mois sans être payés, et qui donc ventre affamé dans point d'oreille, comme on dit. Et je dois vous dire que moi je crois que ne pourra gagner que celui qui mettra suffisamment de paquets sur la table ou qui pourra, n'est-ce pas, remplir les poches des députés. On le sait, et déjà, j'ai vu comment son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, s'est énervé un peu contre les députés pour traduire un peu sa déception par rapport au comportement de ces députés provinciaux qui, n'est-ce pas, se manifestent par une indiscipline totale, se caractérise par une sorte de comportement d'électron libre. Et donc, tout cela nous pousse à croire que ce qui a été fait ici, en termes de préliminaires, ne va pas peser beaucoup le 6 mai, lorsque viendra le moment de poser les bulletins dans les urnes.
Mais aussi, on ne peut pas dénoncer cette attitude de Kinshasa. On peut même aujourd'hui estimer qu'on n'est pas sorti de l'auberge, parce qu'apparemment Kinshasa tient à maintenir cette méthode qui, n'est-ce pas, consiste à imposer aux provinces des gouverneurs qui, pratiquement et logiquement, se sentent redevables, pas à leurs assemblées provinciales, mais plutôt à certaines personnes qui seraient ici à Kinshasa, et ce, au détriment, n'est-ce pas, des intérêts des différentes provinces.
Oui, c'est ce qui me pousse souvent à dire que le principe de la libre administration des provinces est souvent mis à mal par la volonté délibérée de certains acteurs politiques, tant au niveau national que provincial, de nager à contre-courant de tout ce qui est prévu par le législateur. Et donc nous sommes dans un pays où il y a une dichotomie entre la théorie, ce qui est prévu dans le texte, et la pratique. Il y a vraiment un fossé presque abyssinale entre la volonté du législateur et la pratique sur terrain qui est telle que aujourd'hui les députés provinciaux semblent être commandés par un pouvoir central qui ignore le principe de la libéralisation des provinces. Mais je crains que des surprises désagréables ne viennent se manifester le jour des élections et que donc des candidats qui auraient été, n'est-ce pas, proclamés à l'issue de ces élections préliminaires ne soient soumis à des surprises qui, n'est-ce pas, pourront créer des fissures au niveau de leur mouvement politique.
Merci, professeur Alphonse Bahindo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Quelle analyse vous faites du processus de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de 14 provinces?
Je pense qu'il faut analyser cette question d'un point de vue de deux logiques, en fait, ou deux stratégies qui s'affrontent. On a donc d'un côté une stratégie d'ancrage local qui est défendue par les députés provinciaux qui voudraient que les nouveaux gouverneurs puissent être des autorités qui soient vraiment, qui ont des racines dans les terroirs et qui connaissent les terroirs et qui sont proches des gens et qui donc comprennent, qui partagent les mêmes préoccupations, partagent les mêmes espaces, on se sont appropriés le même espace que les députés et tout ça. Et donc, ce qui donnerait un avantage aussi pour les députés, ils pourraient plus facilement le contrôler que quelqu'un qui obéirait à une logique plutôt de dissémination nationale, donc qui proviendrait donc, qui serait donc d'une certaine manière parachuté de Kinshasa, et de ce fait, il ne serait pas contrôlable par les députés provinciaux et qui, par nature, aurait moins de connaissances du terroir et il serait moins attaché au terroir, à l'espace local, et donc défendrait moins les intérêts locaux, défendrait plutôt les intérêts nationaux, en fait, dans l'intérêt de ceux qui l'auront désigné pour faire ça. Et donc, ce sont ces deux logiques, en fait, qui, à mon avis, sont en train de s'affronter pour le contrôle du pouvoir. Normalement, la logique qui voudrait, si vous voulez, la stratégie la mieux indiquée dans les contextes actuels d'un pays comme le nôtre, même pas seulement, c'est la stratégie d'ancrage local du point de vue territorial. Parce que c'est plus durable à long terme, en termes d'efficacité, mais également parce que ça permet une plus grande résilience à l'échelle locale. Tandis que les gens qu'on parachute, si vous voulez, ça ne va pas permettre un développement durable, ça ne peut pas être payant à long terme. Une fois que le mandat est terminé, la personne retourne à Kinshasa, et donc ne va pas continuer à faire le travail de terrain. Et donc c'est ça, si vous voulez, la situation que l'on a. Alors on pourrait se demander quel est l'intérêt de l'Union sacrée de Kinshasa de vouloir mener cette stratégie contraire à l'ancrage territorial local pour privilégier une stratégie de parachutage des gens à partir de Kinshasa. Alors, pour comprendre cela, il faut qu'on se situe dans le contexte actuel. Nous sommes à 20 mois des élections. Et donc, il faut avoir des gens qui sont proches, des alliés, qui vont vous permettre de contrôler l'espace local au cas où il y aurait des soulèvements, zones d'instabilité, tout ça. Et des troupes, donc il faut avoir des gens de confiance et qui peuvent défendre vos intérêts, mais aussi parce que pour les élections, on aura besoin d'argent. Et donc il faut que ces gens viennent pour prendre le maximum d'argent pour financer les partis, pour financer les candidats du parti ou du regroupement politique. Et donc c'est ça qui est, à mon avis, le principal enjeu. Si on était vraiment dans une logique de vouloir défendre le développement du terroir, on ne ferait pas des élections de gouverneurs à 20 mois de la fin du mandat. Voyez-vous, parce que les mandats de ces gens vont finir dans 20 mois. Qu'est-ce qu'ils vont réaliser en 20 mois? Donc c'est juste à peine le temps d'arriver, de concevoir un programme, de le faire valider par l'Assemblée provinciale. Je rappelle que la prochaine session sera en septembre, sauf si on convoque une session extraordinaire. Donc de ce fait-là, ils n'auront pas le temps d'appliquer, puisqu'à peine le programme validé, ils doivent se mettre en campagne électorale.
Voilà. Oui, professeur, vous avez suivi Maître Gilbert Katsingé et qui a parlé des données qui peuvent changer à tout moment, que ces jours-là, les jours d'élection, il peut y avoir des surprises, n'est-ce pas, désagréables. Et on ne peut pas dire que le revers de la médaille de cette stratégie qui est utilisée par Kinshasa, c'est qu'on n'est pas certain que le député provincial, même si il est membre d'une famille politique donnée, va effectivement voter pour le ticket proposé par sa famille politique. Hein. Nous avons des cas qui sont légion. On se rappelle Kengo Adondo en face de Cheo Kitundu au Sénat en 2007. On se rappelle Datu Matubwana en face de Mbachi Mbacha au Congo central en 2019.
Oui, effectivement, on a connu ces cas et même dans la Tchop, on a connu ce type de situation aussi où on a eu les candidats du PPRD qui faisaient partie de Fonds communs de la nation qui avaient échoué face aux candidats indépendants, tout ça. Bon, mais qui au final, en fait, candidat indépendant en question n'était pas indépendant comme on le prétendait. En fait, c'était un candidat aussi du FCC et qui s'était plus ou moins rébellé avec plus ou moins le soutien d'autres membres du FCC. Donc, chaque fois qu'on regarde ce genre de choses, il faut le regarder avec aussi un regard très critique. Bon, apparemment, on peut dire qu'en fait, il y a un désaveu de ce qui a été fait. Mais en réalité, les élites de Kinshasa ou les dirigeants, ils mettent leur patate dans plusieurs paniers. Alors, en fait, ils soutiennent les candidats dits indépendants et ils soutiennent les candidats officiels. Et donc, en se disant, bon voilà, puisque nous ne pouvons pas contrôler totalement les électeurs, alors autant leur donner deux ou trois trucs et ils finiront par choisir l'un des deux ou trois trucs que nous avons mis à leur disposition. Alors nous aurons toujours au final des gens à nous. Et donc c'est ça qu'il faut faire. Si vous faites l'analyse in fine, vous arrivez à cette conclusion-là. Apparemment, on a l'impression qu'il y a eu un désaveu. On a fait une claque aux gens de Kinshasa. Mais en réalité, c'est toujours, vous regardez, c'est toujours les mêmes, les grands décideurs, dont leurs poulains qui ont défendu d'une manière ou d'une autre, qui se retrouvent aux affaires.
Il peut y avoir des surprises comme l'a relevé Maître Gilbert Katsingé. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passerait si les candidats qui est élu par une assemblée provinciale donnée n'est pas celui qui avait été soutenu par la famille politique du chef de l'État? Et du coup, est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec un gouverneur et un vice-gouverneur qui ne sont pas soutenus? Et donc, on risque de revenir à la case départ. Kinshasa pourrait utiliser, n'est-ce pas, ses députés provinciaux pour déstabiliser ceux-là qui ont été élus. Et c'est l'instabilité, une fois de plus, que nous risquons de revivre dans les différentes provinces, alors qu'on espère qu'avec ces élections, on va mettre une croix à ces phénomènes d'instabilité.
Non, à mon avis, ça ne va pas faire de grosses vagues, puisque Kinshasa veut avoir ses hommes à lui, qui peut manipuler facilement tout ça au niveau des entités provinciales. Mais si l'un des candidats qu'ils ont appuyé n'est pas passé, ce qu'ils vont faire en premier lieu, c'est de travailler la personne qui est élue pour que la personne en question puisse s'aligner. Vous sur la politique de l'Union Sacrée, maintenant c'est l'Union Sacrée, donc ils vont travailler pour ça, ils vont essayer de le faire comprendre pour ça, et ils ont les moyens pour le faire. Et entre autres moyens, c'est notamment la question de la rétrocession de recettes d'intérêt commun. Et donc on peut retarder, on peut lui faire comprendre que si vous voulez avoir des rétrocessions de manière régulière et efficace, donc il faut que vous puissiez adhérer à l'Union Sacrée. Et donc on a vu, hein, même avant, on a vu des gens qui étaient élus comme indépendants, mais après qui sont dans la Mongala, les gouverneurs Crispin Gourou là-bas, qui étaient élus pour le compte de la Mouka, mais après on a vu que finalement ils travaillaient pour les FCC, parce qu'il a été, si vous voulez, travailler presque au corps pour lui montrer qu'il a intérêt à pactiser avec la majorité au pouvoir, donc ceux qui détiennent les clés du pouvoir à Kinshasa. Alors, s'il résiste, où ils ne donnent pas assez d'argent aux gens qui sont à Kin, ils vont commencer à pousser. Mais le plus important, c'est qu'il faut que cette personne puisse être en état, si vous voulez, en bonne intelligence avec les députés provinciaux. Bonne intelligence avec les députés provinciaux, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut que les députés provinciaux aient leurs émoluments régulièrement, donc qu'ils puissent avoir des informes davantage, alors ils vont les laisser tranquilles. Mais s'ils les oublient, ils servent uniquement ces patrons de Kinshasa, alors là, ils seront en difficulté avec les députés provinciaux, ça c'est certain.
Merci Jonas Tchombela, coordonnateur national de la nouvelle société civile du Congo. Que pensez-vous de ce processus électoral qui va aboutir à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces concernées?
Merci pour la question. Nous pensons que nous sommes là devant une démarche très dangereuse qui ne peuvent pas aboutir à trouver des solutions pour les populations locales qui sont restées plusieurs mois sans l'exécutif provincial à cause des tergiversations politiques et même de Kinshasa. La logique, elle est très simple. C'est comme le gouvernement ou bien les autorités centrales de la République sont prises par le piège de la diaspora, et la même logique est tentée de se poursuivre en province pour imposer aux provinces des hommes et des femmes qui n'ont rien à faire avec les aspirations de la communauté locale. La démarche de l'Union sacrée, elle a quelle base légale? C'est bien qu'une stratégie certainement électorale, mais qui ne répond pas aux besoins de nos communautés locales. Moi, je viens d'une journée dans le Kasaï oriental, à Kananga, oui, au Kasaï central, au Congo central. Mais lorsque vous parlez avec les députés, ils vous disent autre chose. Ils ne pensent pas qu'ils vont obéir à la logique d'imposition de ce qui vient à partir de Kinshasa. Quand bien même on les a soumis à une situation sociale, je crois que ce maître qui a évoqué ça tout à l'heure, très difficile, plusieurs mois d'impaiement, et on tente de jouer avec cette note-là pour les imposer des candidats qui sont parachutés à partir de Kinshasa. Et qui, du reste, sont votés dans une sorte de semblant de primaire qui ne disent rien, il n'y a quel est le critère, quel est le programme du gouverneur, parce qu'il est élu sur une province pour répondre à une certaine situation. Il n'y a pas un programme, il n'y a pas tout ce que la population pense. C'est sur base des intérêts égoïstes des leaderships qui est à Kinshasa, qui du reste va faire parachuter quelqu'un qui est déconnecté des réalités locales, ce qui pourra encore ne pas déboucher sur le développement qu'on estimait. J'ai l'impression que c'est la même méthode que nous avons décrite il y a plusieurs mois, où tout était téléguidé à partir de Kinshasa et les populations locales en souffrent davantage, pas de solution, et ceux qui se battent sont toujours ici à Kinshasa. Et le phénomène même de rétro-commission qu'on a parlé tout à l'heure, les gens qui sont envoyés là, sont comme ceux des travailleurs qu'on envoie pour travailler pour les mentors qui sont restés ici à Kinshasa. Je suis convaincu et même certain que d'ici 2023, je ne suis pas sûr que c'est ce qu'on a appelé aujourd'hui des meilleurs. Demain, on va les appeler des incompétents. Nous allons le vivre d'ici là. Les gens qu'on a plébiscités par les primaires qui sont organisés ici à Kinshasa, déconnectés des réalités locales, je suis convaincu. Aujourd'hui, ils sont meilleurs, ils sont compétents. Mais d'ici 2023, c'est le même qu'on va appeler des incompétents. Mais qui nous induit à ces pareils erreurs? C'est toujours les gens ici qui sont à Kinshasa, dans la logique qu'ils nous ont pris. La gouvernance centrale par la diaspora déconnectée des réalités du pays, et cela se poursuit en province, risque de nous déconnecter encore des réalités pour résoudre les problèmes de notre communauté qui sont dans des problèmes de l'eau, qui sont dans des problèmes d'accès à l'énergie, à l'éducation, plein de choses n'auront jamais de réponse parce que ces gens-là ne seront redevables qu'à ceux qu'ils ont désignés à partir de Kinshasa. Ils ne seront pas redevables ni même aux députés qu'ils vont les élire, ni même à la population locale, parce que là, on parle des candidats des tickets gagnants. On ne peut pas dire des programmes gagnants, des tickets gagnants, des individus. On ne parle pas de programmes qui peuvent refléter ce qu'ils pensent faire une fois ils sont élus. On ne parle pas des individus. Là, nous sommes perdus. Je reste pessimiste. Je ne crois pas à ce que nous puissions répondre aux problèmes de développement au niveau local à partir de ces méthodes que nous avons décrites hier, qui sont en train de se répéter aujourd'hui avec les députés qui sont au niveau provincial. On doit laisser les députés provinciaux le libre choix, qu'ils choisissent le programme et le meilleur. Ça fait plusieurs mois qu'on nous dit que le gouverneur il est bon, le demain, aujourd'hui on nous dit qu'il est bon, le lendemain c'est le mauvais, c'est l'incompétent. Mais qui nous induit dans les erreurs? Qui font ce choix-là? Sur quelle base? Voilà autant d'éléments qui ne peuvent pas nous rassurer que cette fois-ci, on aura des bons gouverneurs. Je crois que là, nous sommes très mal partis même pour obtenir des gouverneurs qui seront redevables à Kinshasa aux populations locales.
Et donc, vous voulez dire par là que, à travers cette stratégie qui est utilisée par les hommes politiques, que les intérêts politiques priment sur les impératifs du développement de nos provinces?
Exactement, c'est ça que je veux dire. Les intérêts égoïstes, je parle loin, les intérêts égoïstes, même privés, de certaines personnalités qui ont pris presque tout un peuple en otage, qui continuent à penser qu'il faut continuer à le mettre, à le prendre toujours en otage avec les intérêts égoïstes, qui prennent le dessus sur les intérêts de la communauté locale. Mais là, on ne parle des individus. On ne parle pas des programmes de ces individus qui sont envoyés sur le terrain. Ils vont faire quoi? Parce que ce qui était en place, et même aujourd'hui, ceux qui jouaient le rôle des intérimaires, ils ont été plus redevables à Kinshasa qu'aux populations locales. Vous vous imaginez, par exemple, à Kananga, on a eu un gouverneur haï, mais avec trois ministres, toute une province comme ça, abandonnée plusieurs mois, sans inquiétude de l'autorité centrale. Qui vous dit que ce qu'ils vont faire par la justice maintenant, ils vont répondre aux problèmes de la population locale. Je crois que ces compatriotes députés sont appelés au sursaut d'orgueil de désobéir à ces dictats de Kinshasa qui ne répondent pas aux aspirations de leurs électeurs.
Jean-Jacques Tchombela, vous êtes de la société civile. C'est quoi pour vous le profil pour un bon candidat gouverneur?
D'abord, il doit nous monter, nous faire briefer son programme. Le programme doit être calqué sur le besoin de la communauté locale, le problème qui se pose au niveau local. C'est le problème de l'eau, c'est le problème de l'accès à la route, c'est le problème des ponts qui doivent être reconstruits par-ci, par-là, c'est le problème de la santé. Ces hommes et ces femmes doivent d'abord nous donner son programme. C'est sur base de ce programme qu'on peut dire que c'est un candidat réaliste ou non réaliste. Mais à ce stade, ça c'est un premier critère. Il n'y a pas le programme, on ne peut pas détecter. Et puis, deuxième critère, cet homme ou cette femme doit être totalement connecté des réalités locales. Quelqu'un qui vient de l'Europe, qui chute à Kinshasa, de Kinshasa, on l'envoie en province, qui ne comprend pas ce qui se passe en province, qu'est-ce qu'il va résoudre? Donc, quelqu'un qui maîtrise les réalités locales de la population locale, cet homme ou cette femme fait tant soit fait fournir les efforts. Et cet homme ne devrait pas être un homme qui doit dépendre, comme on le fait actuellement à partir de Kinshasa, qui doit dépendre de son corps électoral et de sa population qui doit servir. Donc, je pense, sur base du programme, sur base des réalités locales, on peut définir le profil d'un bon candidat qui peut nous aider à résoudre le problème de la communauté locale, pour résoudre le problème des politiques qui sont restées ici à Kinshasa.
Merci. Nous allons maintenant écouter les points de vue des auditeurs qui sont en train de participer, n'est-ce pas, à ces débats à travers les appels qui sont en train de faire. Maître Gilbert Kiatsingé, vous allez réagir à cette réflexion de cet auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Bukavu au sud Kivu.
Robert Bahome de Bukavu au sud Kivu. L'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs des 14 provinces est à saluer, étant donné que les provinces ne doivent pas être longtemps dirigées ou gérées par des gouverneurs et des vice-gouverneurs intérimaires. Cependant, à voir comment cette élection est organisée, il y a lieu de noter une anguille sous roche. Rien n'étant pour rien et rien ne se faisant au hasard en politique, l'île de peuple cherche à s'étaler la part du lion dans la gestion de presque toutes les provinces de la RDC, afin de préparer aisément les élections générales de 2023 et les gagner. C'est toute une stratégie bien montée à cet effet.
Maître Gilbert Kiatsingé. Allô, Maître Gilbert Kiatsingé. Apparemment, il n'est plus là. Professeur Alphonse Maindo, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Lubumbashi dans les Haut-Katanga.
Moi, c'est Dieudonné Bangé fils, depuis la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Étant donné que plusieurs provinces étaient restées sans avoir les gouverneurs pendant plusieurs mois, il était presque temps d'organiser ces élections dans le but de rendre stables ces dernières. Mais ma plus grande inquiétude est celle de savoir que les primaires ont été organisées à l'Union sacrée pour se choisir des tickets gagnants, pratiques autrefois décriées avec les régimes passés, lesquelles méthodes ont été même, à mon humble avis, la cause des déchéances en cascade que nous avions connues. Si on en était arrivé là, c'est parce que les tickets gagnants présentés en son temps par les FCC n'avaient pas fait l'unanimité. Et la conséquence, personne n'ignore. Ceci étant, et pour éviter les mêmes erreurs du passé, je pense que l'Union sacrée n'a qu'à laisser ses élus, de l'Union sacrée soit-il, je n'en disconviens pas, de faire leur choix le plus légitime, sans toutefois être contraint. Et ce serait un exercice démocratique digne de ce nom. Le contraire serait de la mascarade, alors que les vainqueurs sont déjà connus au couloir.
Professeur Alphonse Maindo, comment vous réagissez à cette réflexion de l'auditeur qui vient nous appeler depuis la ville de Lubumbashi?
Bien. Alors, d'abord, en ce qui concerne la prémisse, je ne suis pas d'accord avec lui, puisque pour moi, si vous voulez, il n'y a pas de délai pour faire l'intérim. Voyez-vous, on a connu des pays qui ont eu des intérims de longue durée, comme la Belgique qui a battu le record mondial d'intérim de presque trois ans d'intérim. Mais ce gouvernement intérimaire a continué à gérer les pays de manière efficace, a même engagé les pays pour faire des guerres à l'étranger, pour diriger l'Union européenne, tout ça. Donc ça, un intérimaire n'est pas un inapte. Voyez-vous, donc il ne faut pas considérer ça. C'est la volonté que vous avez de pouvoir faire les choses correctement, parce qu'il y a un programme gouvernemental. Quand vous êtes dans les affaires courantes, vous êtes donc en train de faire l'intérim, vous poursuivez la mise en œuvre de ce programme-là. Voyez-vous, et donc c'est ça. Donc s'il y avait dans nos provinces, le vrai problème c'est que dans nos provinces, on n'a pas de gouvernement, si vous voulez, avec des programmes bien détaillés et qui permettent d'avoir une vision et que n'importe qui viendrait pour mettre en œuvre ce programme-là. C'est là qu'est le problème. Alors en deuxième lieu, maintenant je suis d'accord avec lui quand il dit que ce qu'on est en train de faire en ce moment pour tenter d'imposer des candidats comme on a fait avec l'ancienne majorité, depuis des années, on fait ça dans ce pays, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Je suis totalement d'accord avec lui. Donc ces gens, quand ils sont comme ça, parachutés dans le cadre d'un régime clientéliste, néo-patrimonial, donc quand vous êtes client de quelqu'un qui vous a donné un poste, qui vous a fait élire ou fait nommer à un poste donné, vous avez l'obligation de lui rendre des services. Et en l'occurrence, c'est de lui faire des rapports, lui donner de l'argent ou apporter des soutiens de toutes sortes à ces gens-là. Donc vous êtes moins redevable envers la population de la province, moins redevable envers les députés provinciaux. Et donc, à chaque fois, vous recourez au gouvernement central. Et dès lors, on voit que le ministre de l'Intérieur, il se permet alors de devenir une espèce de super gouverneur, donc le chef de gouverneur, il suspend le gouverneur, il interdit même les réunions de l'Assemblée provinciale. C'est hallucinant. Or, la Constitution dit clairement que les provinces sont des entités qui ont leur propre existence, leurs propres organes, et ne dépendent pas du gouvernement central. Voyez-vous, les provinces ne sont pas des ETD, ne sont pas des entités territoriales décentralisées, sont des entités très régionalisées. C'est entre le fédéralisme et la décentralisation. Et là, on a des abus, parce que justement, quand le gouvernement central, donc, ils sont là-bas, ils se rendent compte que leur poulain est menacé là-bas, il faut éteindre les feux, alors on interfère dans les affaires provinciales, dans la libre administration des provinces et des ETD, et on suspend ou on s'oppose parfois même à des mesures de justice.
Voilà. Merci, professeur. Merci. Jonas Tchombela, vous allez réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kolwezi dans les Lualaba.
C'est Patrick Mbouli, Kassama depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. Le processus électoral de gouverneur et vice-gouverneur des 14 provinces va définir l'avenir de l'Union sacrée. Et au regard des tractations qui s'observent sur terrain, cela démontre l'instabilité et manque de consensus au sein de l'Union sacrée qui risque d'être fatale pour celle-ci. Elle a tout intérêt à bien jouer sa carte pour ne pas se faire surprendre, car en politique, tout peut arriver à tout moment.
Jonas Tchombela.
Je salue mon compatriote qui nous interpelle à partir de l'écologie. Effectivement, il n'y a pas l'unanimité. Non seulement au niveau de l'Union sacrée, même au niveau de la population, y compris même au niveau de très contentes d'instrumentaliser pour des causes inavouées. Donc, je partage parfaitement son point de vue, tout en attirant l'attention des honorables députés provinciaux qui sont là devant l'histoire et devant les responsabilités. Ils devront normalement élire les hommes et les femmes qui leur seront redevables. Redevables vis-à-vis des députés, redevables vis-à-vis de la communauté locale. Pas redevables vis-à-vis de Kinshasa, mais on doit collaborer avec Kinshasa parce que c'est l'institution au niveau national. Mais la manière dont les choses sont en train d'être faites actuellement, je crains fort que les populations locales soient les plus grandes perdantes et la plus grande victime sera la population locale. Et dans ces conditions-là, les remous, c'est pour cette raison qu'un des interlocuteurs a parlé, qu'on est en train d'envoyer des gens qui pourront sécuriser les mentors qui sont issus de ça, une fois qu'il y a des tensions au niveau local à cause des décisions qu'ils risquent de prendre qui n'ont rien à faire avec la population au niveau local. Donc, les compatriotes de l'Union sacrée ils nous ont combattus, je comprends, parce que c'est finalement l'Union sacrée, c'est une mosaïque, on n'a pas une bonne définition. Tout le monde vient de tout partout et les mêmes méthodes sont en train de se répéter. Je crois que nous allons chuter sur le même type de résultats et nous risquons de le regretter. Il est temps que les députés provinciaux s'y ressaisissent et répondent à la voix de leur conscience.
Merci, maître Gilbert Kassing. Est-ce que vous êtes là?
Je suis là, je suis bien là.
Oh, oui, certainement que vous n'avez pas écouté la réflexion de l'auditeur qui nous a appelé depuis la ville de Bukavu. On va essayer de les rappeler et vous allez réagir.
J'ai tout noté avant d'être interrompu.
L'auditeur de Bukavu?
Robert, oui.
De Robert Bahoumé. Ok, est-ce que vous voulez réagir?
Merci beaucoup. Je salue d'abord notre auditeur de Bukavu, M. Robert, qui m'a presque rejoint sur beaucoup de points, parce qu'en fait, il est vrai que l'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs est à saluer, mais je note ici qu'il s'agit tout simplement d'une formalité, d'un certain formalisme, parce que la Constitution a prévu que les gouverneurs et les vice-gouverneurs sont élus par les députés provinciaux, mais en réalité, dans la volonté de ceux qui organisent ces élections, ceux qui participent comme acteurs, en fait, il y a, si ça ne dépendait qu'on aurait pu nommer. Voilà pourquoi on est en train de recourir à des procédures qui ne sont pas prévues par aucun texte, parce que je ne connais aucun texte sur la décentralisation qui a prévu le préliminaire comme mode de scrutin, comme faisant partie du processus électoral des gouverneurs, et que donc cette activité-là ne devrait normalement pas préoccuper les Congolais parce que elle est dépourvue de toute valeur, de tout fondement juridique. Et que donc nous ne serons pas surpris si les résolutions qui sont prises à l'issue de cette activité ne s'imposent pas aux députés provinciaux parce qu'elles ne trouvent aucune base juridique. Je voudrais rebondir sur la proposition du compatriote Jonas Tshombela qui a parlé de profil, hein, que pour lui, le prochain gouverneur sera élu sur base de programme de gouvernement. Et moi, je me dis, en 20 mois d'abord, il est difficile de mettre en œuvre un quelconque programme, mais que du reste, avec le programme de développement de 145 territoires, je ne vois pas quel autre programme, hein, si ce n'est peut-être quelques bribes de programmes sur les villes, parce que déjà pour les programmes de développement des territoires, le pouvoir central a déjà élaboré tout un programme qui va s'imposer, n'est-ce pas, à chaque gouverneur et à chaque province, et ce qui est une violation, n'est-ce pas, du principe de la libre administration des provinces, que donc les gouverneurs qui seront élus viennent tout simplement préparer les élections et que nous ne voyons pas d'autres activités qui peuvent être profitables au peuple, qu'ils peuvent organiser, d'autant plus que tel que fonctionnent nos provinces, les gouverneurs vont passer le clair de leur temps à consolider leur pouvoir vis-à-vis des députés provinciaux qui, eux-mêmes, comme vous le savez, vont bientôt entrer en pré-campagne, donc ils auront besoin de beaucoup d'argent pour leur pré-campagne. Et cet argent ne pourra venir d'ailleurs que des provinces, donc les gouverneurs, s'ils veulent consolider leur pouvoir, devront bien gérer les députés dans leurs besoins de pré-campagne, mais aussi ils devront, n'est-ce pas, entretenir la source, l'une des sources de leur pouvoir, à savoir certains acteurs politiques au niveau central, ce qui fait que dans tout ce programme, le peuple n'a pas sa part du tout. Et donc, je comprends que la Constitution impose qu'on choisisse les gouverneurs par voie électorale, mais l'idéal aurait été qu'on laisse les intérimaires continuer jusqu'aux élections parce que le processus actuel ne va ne conduire à aucun résultat par rapport aux objectifs des élections.
Maître Gilbert Kassing, les dés ne sont pas encore jetés, on peut toujours se rattraper. Que recommandez-vous pour que cette élection des gouverneurs et vice-gouverneurs stabilise les provinces et permette à celles-ci de pouvoir décoller cette fois-ci?
Je crois que nous ne pouvons pas nous leurrer. Il n'y a rien à espérer de ces élections. Comme je vous ai dit, les gouverneurs n'auront pas le temps d'élaborer un programme faisable, pratique, un programme de gouvernement qui peut changer, seront eux-mêmes en pré-campagne, comme les députés provinciaux, comme beaucoup d'acteurs politiques, et que donc l'attention de tout le monde, de tous les acteurs politiques, sera bientôt focalisée sur la préparation de 2023, et cela ne permet jamais de s'occuper, n'est-ce pas, de la population, sinon que de faire du saupoudrage ici et là.
Merci.
Par des actions dont on va, n'est-ce pas, se servir pour, comme argument électoral.
Merci, je considère ça comme votre conclusion. Professeur Alphonse Maïn, vous allez aussi conclure. C'est quoi vos recommandations pour que cette élection, comme je l'ai demandé à Maître Gilbert Kassingé, pour que cette élection de gouverneur et vice-gouverneur puisse permettre la stabilisation, n'est-ce pas, des provinces et permettre à celles-ci de pouvoir cette fois-ci décoller?
Alors, si vous voulez, pour moi, l'élection, pour qu'elle puisse se dérouler correctement, il faut donc qu'on laisse tous les candidats se présenter librement, sans aucune contrainte, mais qu'on laisse surtout les députés provinciaux s'exprimer de manière libre et transparente et en toute discrétion, arrêter de faire des pressions sur eux, et que ces gens-là puissent voter en âme et conscience pour qu'après ils ne viennent pas nous dire « voilà, on s'est trompé », parce qu'à chaque fois c'est la chanson qu'ils nous font, on s'est trompé, on s'est fait avoir par nos chefs de Kinshasa. Donc ils ont l'occasion là de pouvoir montrer qu'ils sont des adultes responsables et consciencieux et qu'ils aiment bien notre pays.
Merci. Jonas Tombela, vos recommandations, ça sera sous votre conclusion.
Oui, nous pensons que le gouverneur Omélié, qui sera élu dans ces conditions-là, il est difficile qu'on obtienne de bons résultats. Toutefois, nous plaçons les honorables députés provinciaux devant leurs responsabilités de telle manière à ce qu'ils soient libres de leur choix pour donner à la communauté locale et le gouverneur qu'il faut pour répondre aux besoins locaux. Comme le cas que nous avons vécu de gouverneur intérimaire comme celui de Kananga, où devant la famille de Nganza, il y a un trou qui se crée et tout le monde est insensible. Et le bourgmestre et le gouverneur. Donc il faut des hommes et des femmes qui doivent s'intéresser aux problèmes de la communauté. Et là, si nous avons de tels types d'hommes, nous pouvons répondre aux besoins de la communauté locale. Mais le gouverneur, dans les conditions actuelles, au main lié, je doute fort qu'on puisse traiter sur le développement ou bien sur le bien qu'il faut faire à la communauté locale.
Merci à vous, Maître Gilbert Kassingé, professeur Alphonse Maïndo et Jonas Tombela, d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Willem Lungamba et Dieudonné Nyangasa, qui étaient à la technique, et à Kelly Nkute et Dona Madimba, qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sebujangwe, à la présentation Guy Maté. Merci encore une fois de plus et bonne suite des programmes sur Radio Capi.